RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui à Marseille où deux immeubles se sont effondrés le 5 novembre dernier en faisant 8 morts. Les deux bâtiments touchés étaient centenaires, l'un frappé d'arrêté de péril, donc insalubre et bouclé, l'autre sujet à des fragilités. Alors qu'une enquête bat son plein et qu'une expertise des bâtiments et des écoles du centre-ville a été lancée, la municipalité de Jean-Claude Gaudin est bousculée. Ce drame relance le débat sur le logement insalubre à Marseille, dont certains arrondissements font partie des zones les plus pauvres de France, selon l'INSEE. Entre deuil, colère, détresse et incertitude, quand le logement tue à Marseille, c'est un grand reportage de Stéphane Burgat.
C'est une vidéo qui a fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Avec son smartphone, un homme filme des fissures apparues dans son appartement. Pendant la nuit, les murs sont zébrés, la structure entière a bougé et les portes ne se referment plus dans leur encadrement.
Tiens, ça va être la cuisine. J'ai déjà plus fermé la porte. Il y a une urgence. Cette porte se ferme, elle ne se ferme plus. En quelques heures, ça s'est aggravé. L'impression, ici que le plafond, on entend des petits bruits, ça empire.
Ces images sont glaçantes car elles sont tournées au numéro 65 de la rue d'Aubagne le matin même du drame. L'auteur de la vidéo ne doit son salut qu'à son indignation. Une fois l'enregistrement terminé, il sort de chez lui pour montrer ce qu'il vient de filmer à son syndicat de copropriété. Les bâtiments s'effondreront moins d'un quart d'heure après son départ. Chronique d'une catastrophe annoncée dans le voisinage plus ou moins proche, personne n'ignorait la vétusté de ces immeubles.
Toute la rue, si vous passez dedans, vous voyez les immeubles, bon, ça saute aux yeux, quoi. Ils sont tous fissurés, le béton est décrépit, les peintures sont prêtes à se barrer, tous les parties en bois sont pourries, les immeubles avec plus rien dedans, le truc s'est tout effondré et tout, il y en a combien, il y en a plein.
C'est pas faute de l'avoir signalé, moi j'étais en contact avec la mairie au moins par mail, c'est dans un état pas possible depuis des années, il y avait même un commerce qui existait au rez-de-chaussée, alors que l'immeuble était déjà lézardé, on se disait comment on peut être autorisé à ouvrir. Il suffit, je pense, de taper aux portes pour se rendre compte des situations abominables que vivent les gens dans ces immeubles, dans la rue d'Aubagne.
La rue d'Aubagne est une voie en pente, longue et étroite, de l'hypercentre marseillais, depuis la place du marché populaire de Noailles jusqu'au quartier Bohème du cours Julien. La population y est majoritairement pauvre, les immeubles sont anciens, peu, voire pas entretenus. Le numéro 63 était désaffecté. Le bâtiment mitoyen, le 65, habité, ne reste plus aujourd'hui qu'un spectacle de désolation et une immense grue de chantier.
Une minute de silence ! Merci !
Une émotion palpable autour de la rue d'Aubagne avec des fleurs déposées contre les barrières qui bouclent la zone et un premier rassemblement 5 jours après l'effondrement. En tête de cortège de cette marche blanche, quasiment silencieuse, une seule pancarte est déployée. Noailles meurt, Marseille en deuil, tenue par des proches et familles des victimes abattues par le chagrin.
Et pour tous les autres voisins, faut pas les oublier et faut surtout continuer à vivre pour eux.
La retenue de cet hommage qui vole en éclats à l'approche de la mairie centrale sur le Vieux-Port. L'onde de choc est sans pareil dans toute la ville, les sentiments sont vifs et la colère tournée vers un homme, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 23 ans. Ressentiment exacerbé par un incident, au moment même de ce défilé, un balcon s'effondre à proximité du cortège. Coïncidence à peine croyable qui laisse sans voix le député La France Insoumise Saïd Hamada, présent à cet instant.
J'ai mal au cœur, parce qu'évidemment c'est le symptôme par l'absurde quelque part de la situation que connaît la ville. Mais ça note juste le niveau de délabrement de certains immeubles dans cette ville. Est-ce qu'on doit ne plus longer les murs de peur de prendre un parpaing? Est-ce que les Marseillais aujourd'hui sont protégés? Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise pas?
Il sera reproché à Jean-Claude Gaudin son absence ce jour-là. L'édile craignait à juste titre que sa présence provoque des tensions. Il faut dire que la communication de la mairie n'a pas arrangé les choses en avançant dans un premier temps que l'effondrement soit possiblement lié aux fortes pluies des jours précédents. Justification intolérable pour Victor Gioia, président de l'Union des quartiers et cités abandonnés de Marseille.
La mairie se réveille avec la gueule de bois. Elle découvre, après un quart de siècle de profond sommeil, que l'indifférence peut tuer. La fin de règne de cette municipalité, elle se termine sous des gravats, dans les larmes des Marseillais. La ville de Marseille voulait vendre la carte postale de plus belle la vie. Nous, on leur dit, elle est plus meurtrière que ce que vous pouviez l'imaginer. Et c'est pas vous qui en êtes victime, c'est tous les autres. Se foutre du monde à ce niveau, ça pouvait passer pendant un certain temps. Il a fallu ce drame pour que les Marseillais se réveillent. Ces gens, ce qu'ils veulent, c'est pas réclamer le prix du sang, c'est le rétablissement de leur dignité. Les immeubles qui se dégradent, ils se seraient jamais dégradés dans le quartier des élus. Ils se dégradent ailleurs, là où tout le monde s'en contrefout.
Face au reproche de prioriser les chantiers luxueux plutôt que de régler la question de l'habitat indigne, le maire de la ville avait assuré dans un premier temps qu'il avait fait son devoir et n'avait pas de regrets à nourrir à ce titre, inflexible. Et pourtant, au lendemain de cette marche blanche, Jean-Claude Gaudin convoque à nouveau la presse et nuance cette fois-ci son propos.
Nous avons fait combien d'accords, combien de procédures? Au moins trois. Bon, nous en avons fait, on n'en a pas assez fait sans doute. Voilà, on n'en a pas assez fait parce que c'est compliqué, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer. Et donc, il est clair que l'insalubrité existe encore et qu'il faut qu'on s'attache à faire des efforts sérieux de ce côté-là. Nous avons le sentiment, nos juristes ont le sentiment que nous n'avons pas de faute particulière à nous reprocher.
Le maire est bousculé car la fronde est populaire, mais politique également, un camouflé avec cette annonce du préfet de région, Pierre Dartout. L'État reprend la main à Marseille sur la question du logement insalubre.
Le gouvernement a décidé d'envoyer un certain nombre d'experts de Paris. Ils vont d'abord et de façon prioritaire travailler sur la rue d'Aubagne. Ils seront peut-être amenés à définir une méthode de travail qui permettra de faire des diagnostics un peu plus importants sur d'autres îlots où il pourrait y avoir un certain nombre de difficultés.
8 victimes rue d'Aubagne et une question pour la justice. Il y a-t-il une chaîne de responsabilité ayant abouti à ce drame? Plusieurs dizaines d'enquêteurs sont mobilisés avec une étude des gravats et des perquisitions menées auprès du syndicat de copropriété et des propriétaires du numéro 65, ainsi que des experts qui ont visité le bâtiment, mais aussi à la mairie et son bailleur social Marseille Habitat, propriétaire depuis un an et demi des murs du numéro 63, au terme d'une longue mesure d'expropriation qui aura duré 10 ans.
Les constructions de la rue d'Aubagne datent de la fin du XVIIIe siècle. Les immeubles sont construits en s'appuyant les uns contre les autres. À ce stade de l'enquête, les causes de l'effondrement de ces immeubles ne sont pas établies. On ignore d'ailleurs lequel des deux immeubles a entraîné l'effondrement. Les enquêteurs ont cependant pu recueillir d'ores et déjà des témoignages selon lesquels l'immeuble situé au numéro 65 avait bougé avant son effondrement. Une locataire a en effet appelé les pompiers dans la nuit. Le matin même de la catastrophe, un locataire du troisième étage n'a pas pu ouvrir la porte de son appartement et un autre est parti sans qu'il puisse fermer son appartement.
Alors tout ceci pouvait-il être évité? Qui savait? Il y a-t-il eu des négligences? À ce jour, ni garde à vue, ni responsable désigné dans cette enquête du parquet, même si les révélations se multiplient dans la presse. Les interrogations autour du 65 rue d'Aubagne semblent remonter à plusieurs années selon plusieurs courriers de signalement. Bâtiment notamment diagnostiqué 2 semaines seulement avant le drame par 2 expertises avec un arrêté de péril délivré seulement pour le premier étage côté cour. Le reste du bâtiment pouvait continuer d'être habité. Autorisation délivrée en contrepartie d'une série de travaux dont le soulagement d'un plafond. Longtemps taxée d'immobilisme, la mairie marseillaise a multiplié depuis le 5 novembre les évacuations préventives dans le centre-ville. Chiffre provisoire toujours en évolution. À ce jour, plus d'1 millier de familles sont concernées. tous ne retrouveront peut-être pas leur domicile et sont, en attendant, logés dans des hôtels. C'est le cas de Laurent.
On n'a plus accès à notre immeuble, vu que notre immeuble se trouve pile en face du 63 et du 65. Oui, on a tout laissé. On a pu passer une fois 10 minutes pour récupérer tout dans le noir. Mais bon, on était un peu choqués, on était tellement paniqués qu'on n'a pas pris forcément ce qu'il fallait. Quelques habits, quelques papiers, quoi. Le strict minimum. On a l'hôtel, payé par l'assurance. C'est difficile. Après, on relativise puisqu'on est en vie, quoi. Quand vous n'êtes plus chez vous, on vous vole votre vie, quoi, tout simplement. Hein.
Des habitants et des commerçants également concernés, comme Sébastien, propriétaire d'un salon de coiffure et d'esthétique.
J'ai un commerce, on m'a fermé mon commerce. On dit que c'est dans une zone dangereuse parce que l'immeuble qui est à côté de mon commerce risque de s'effondrer. Moi, aujourd'hui, j'ai 8 salariés qui vont être mis au chômage. J'ai des crédits, j'ai des loyers à payer et je vais me retrouver moi-même à la rue du fait que j'ai plus de commerce. J'ai plus de moyens de travailler. Je fais comment? Ici, quand je viens à la sécurité civile, on me dit que personne ne s'occupe du dossier des commerçants. On s'occupe que des gens qui n'ont plus de logement.
Et une solidarité qui s'organise entre Marseillais. Sabrina est venue donner des vêtements qu'elle dépose à la mairie de secteur.
Vu ce qui se passe en ce moment, et le froid et la pluie et tout le reste, donc on s'est dit que ça serait bien de ramener des gros manteaux d'hiver, des chaussures et surtout pour les enfants. Il faut être humain, ça aurait pu nous arriver à nous.
Plusieurs milliers de kilos de vêtements ont ainsi été collectés pour être distribués aux familles relogées. Mais dans le voisinage de la rue d'Aubagne, à l'image d'Ali Bouana, qui demande à être relogé depuis plusieurs années déjà, beaucoup ont maintenant peur de vivre ici.
Je pense que ces immeubles qui nous entourent dans les secteurs où on vit avec un danger. Un jour, je me suis levé du quatrième et il y avait des fissures sur les murs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont cimenté, ils ont mis la peinture, mais là, ça ne se voit pas. Mais moi, quand je vis ça, avec les problèmes qu'il y a, je perds. Et à chaque fois qu'on le signale aux propriétaires ou quoi, ils font les sourdes, ils ne répondent pas et bien sûr on dort avec la pelle au ventre. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas dormir dehors, non? Il faut quand même qu'ils nous écoutent parce qu'il y a un problème.
De nombreuses interrogations subsistent malgré l'attachement de certains à ce quartier populaire de Noailles. C'est le cas de Zora Medioni, ancienne propriétaire d'un petit hôtel rue d'Aubagne, dont elle est devenue locataire il y a une dizaine d'années, et se pose maintenant la question du retour. Sera-t-il possible pour tous? Rien n'est moins sûr, mais surtout, si ces Marseillais sont autorisés à regagner leur appartement, le pourront-ils?
J'ai pris un choc, je m'en reviens pas qu'il s'est passé tant de choses dehors. Ah non, je suis pas rassurée. Ah non, 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 ah non. Je crois pas que je vais pouvoir réhabiter là-bas. Ah non, j'ai toujours peur. J'ai la peur au ventre de rentrer dans cet hôtel. J'ai toujours peur que ça va se passer pour l'hôtel aussi. Parce que tous les immeubles sont collés un à l'autre. Et puis ça peut, avec tout ce qui se passe, je sais pas s'ils vont pas le détruire. Hein.
Des habitants qui se sont spontanément retrouvés pour tenir des réunions, smartphone à la main pour certains comme Delphine, pour se montrer des photos des dégradations de leurs foyers respectifs.
Voilà, c'est la cave de chez moi. Ouais. L'appartement c'est pareil, de partout c'est pareil. Et ils le savent très bien, ça tombe en poudre. Voilà, je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Ça fait 3 ans que je me bats contre les services de la mairie et mes bailleurs en premier. Infiltration d'eau de partout, fissures de partout, les fondations, les poutres pourries, les murs qui tombent en poudre en morceaux. L'immeuble, il est fissuré avec une fissure transversale qu'on voit dans la rue, qu'on voit dans ma cour. Ça fait un trou dans le sol et ça va jusqu'au sommet de l'immeuble. Ça fait 3 ans que je me bats, je croyais me battre pour rien et je me dis que maintenant mes petits courriers vont peut-être servir à quelque chose.
Le tout pour un loyer de 905 euros par mois pour 50 mètres carrés. Mais le centre-ville marseillais n'est pas le seul touché par ce mal de la vétusté, des bâtiments pas ou peu entretenus. Le fléau s'étend jusqu'au quartier nord en passant par le 3e arrondissement de la ville, classé secteur le plus pauvre de France par l'INSEE, et où réside Sandrine Ladjed, dans une cité HLM.
Le bâtiment, déjà, le couloir, il est tombé. Bon, quand ils ont fait la réparation, ils m'ont mis jusqu'à un placo. Jusqu'à maintenant, il n'y a que le placo. Le bâtiment, de toute façon, il est parti en live. Il est descendu comme un bateau de Titanic, là. Et à chaque fois, j'ai la porte qui se coince. On ne peut pas la fermer non plus. Et il y a des rats. J'ai des photos qui grimpent. C'est insalubre. Hein. Les gens, ils n'ont pas demandé d'avoir que des vêtements ou le repas. On ne cherche pas ça. On veut être logé normal. Dans les appartements qui sont propres. On ne demande pas la lune. Mais de toute façon, c'est toujours les pauvres qui morflent. Ce n'est pas les riches, c'est les pauvres qui morflent.
Voilà, on dégarnit.
Peut-on parler de loi des séries ? Ou bien l'attention se porte-t-elle enfin sur certains événements jusque-là balayés sous le tapis ? Moins d'une semaine après les effondrements de la rue d'Aubagne, un autre incident aurait bien pu tourner au drame. Dans une petite rue piétonne du quartier populaire du Panier, toujours dans le centre-ville, un incendie parti au petit matin de la cage d'escalier d'un vieil immeuble. Des fumées épaisses et une mère de famille notamment bloquée au deuxième étage avec ses deux enfants, sauvés grâce aux réflexes de leurs voisins, dont Mohamed, 14 ans, et Kamel Edine.
Je prends le matelas de ma chambre, j'ai mis dehors, j'ai crié dans la rue, sauté, et la dame, elle a sauté ainsi que les deux enfants.
Avec la fumée, on ne voyait pas. Quand il y a une petite visibilité, j'ai dit, on voyait le petit, la petite fille, et après c'était la maman, c'était la plus difficile parce qu'elle était enceinte. J'avais peur pour l'enfant ou pour elle. Donc on a tout fait, on a mis toutes nos forces pour qu'elle ne touche pas le bitume.
Et tandis que les pompiers font tomber les morceaux de façade fragilisés, ce sont de nouvelles familles contraintes au relogement d'urgence.
Ouais, voilà. Parfait. Croc, ne regarde pas en haut, c'est dangereux.
Tu parles avec lui.
Voilà. On laisse passer le cortège.
La rancœur est profonde dans toute la ville. Quatre jours après la marche blanche d'hommage, c'est cette fois un défilé de la colère qui rassemble plusieurs milliers de Marseillais pour maintenir la pression sur la municipalité.
Marseille, c'est comme un corps, c'est de la matière. Si on a un cancer, on ne fait pas un lifting. C'est même si le Godin s'occupe du lifting, de la chirurgie esthétique pour les touristes. Alors que le cancer reste toujours là.
Le cortège est applaudi lors de son passage dans le dédale de Ruelle de Noailles. Pour ouvrir la marche, les manifestants brandissent 8 pancartes, portraits des 8 victimes avec leurs noms, Simona, Fabien, Nas ou encore Taher, et 8 torches embrasées pour les symboliser. Les slogans sont hostiles, voire même vengeurs à l'endroit du maire de Marseille, dont ils exigent encore et toujours la démission.
Nous, on meurt. On a nos maisons qui sont fissurées. Vous ne voulez pas qu'on soit en colère ? On paye des impôts, on paye le loyer, on est des Arabes, on est des Noirs, on est même des Français, on est ce que vous voulez. On laisse les maisons pourries, on tue les enfants des gens. Moi, je n'ai pas de lame à couler. Mais je demande à M. Godet de faire très attention, parce que Marseille, c'est pour le monde entier.
À nouveau, le défilé s'arrêtera sous le balcon de Jean-Claude Gaudin à la mairie, sur le Vieux-Port, mais cette fois, une étape est franchie et le rassemblement tourne à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Une colère inédite et qui en dit long, selon Fatih Boiroy, lui qui a mené pendant 12 ans la lutte contre le mal-logement ici, à la tête de la Fondation Abbé Pierre.
Vous savez combien il y a eu de personnes qui ont porté des plaintes sur les questions d'insalubrité en 2016 ? Il y en avait 400. Là, en quelques jours, la ville a reçu 200 plaintes. Donc nous sommes effectivement dans une situation où les gens ont compris une chose, c'est que le logement ne rend pas que malade, le logement ne ruine pas seulement, le logement tue. Et que là-dessus, il y a une prise de conscience des Marseillais, de gens qui sont prêts aujourd'hui à se défendre, ce qui n'était pas le cas.
Et maintenant, après l'émotion, après la colère, que va-t-il se passer autour de la question de l'habitat insalubre ? Le drame servira-t-il durablement d'électrochoc ? Le gouvernement propose pour l'ensemble du pays un plan de 2,5 milliards d'euros pour la reconstruction, voire la destruction de copropriétés en difficulté. 14 sites seraient prioritaires en France, dont 5 à Marseille. Des chiffres bien en dessous de la réalité pour nombre d'observateurs qui citent le rapport Nicole de 2015 et sa conclusion de 40 000 logements insalubres dans la ville. Quand le logement tue à Marseille, un grand reportage de Stéphane Burgat réalisé par Pierre Chaffangeon.